France Internationale, il est 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
On est ensemble pour 3 heures d'information. On commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Marion et bonjour à tous.
À la une, pourquoi a-t-il reculé?
Et malgré les mises en garde répétées, Donald Trump n'a pas frappé militairement l'Iran en dépit de la répression sanglante sur place. On verra que les pays du Golfe ont probablement joué un rôle central dans sa décision. Donald Trump, pour qui le déploiement des troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif d'acquérir le territoire. Hier, de nouveaux pays européens ont annoncé leur participation à ces exercices sur le territoire. À suivre aussi l'Ouganda, retour sur une journée de vote chaotique hier pour la présidentielle et les législatives. La bataille stratégique des semi-conducteurs, ces puces notamment utilisées pour le développement de l'intelligence artificielle. Washington décroche des investissements taïwanais massifs pour relocaliser la production aux États-Unis. Et puis l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a offert à Donald Trump sa médaille du prix Nobel de la paix, c'était lors d'une rencontre à la Maison Blanche.
Ils disent avoir pesé de tout leur poids pour éviter une intervention américaine en Iran.
Et une intervention qui semblait se rapprocher cette semaine. Donald Trump avait multiplié les mises en garde face à la répression sanglante du mouvement de contestation en Iran. Selon un haut responsable du Royaume saoudien, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Sultanat d'Oman ont pesé pour éviter ces frappes sur l'Iran. Il décrit ce haut responsable des efforts diplomatiques intenses et de dernière minute pour convaincre le président américain de donner à l'Iran une chance de montrer ses bonnes intentions. Alors, difficile de dire si cet appel a été déterminant ou non pour éviter ou retarder une intervention militaire, mais cela révèle en tout cas, Nicolas Falaise, l'évolution de l'Arabie saoudite qui a largement apaisé sa relation avec l'Iran.
D'un côté du Golfe Persique, l'Iran, de l'autre, des monarchies arabes qui redoutent le chaos chez leurs voisins d'en face. Une attaque américaine pour faire chuter la République islamique aurait des conséquences incalculables en termes de sécurité nationale pour l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe.
Pour Riyad, il est préférable de traiter avec un régime qu'ils connaissent, qu'imaginer un scénario plein d'incertitudes.
C'est un dossier suivi de très près par Xavier Guignard que nous avons joint à Riyad, où il travaille comme chercheur invité à l'Académie diplomatique saoudienne.
C'est pas simplement on veut éviter de nouveau le chaos dans la région, mais c'est aussi un signal envoyé aux États-Unis pour leur dire on sera de toute façon entraîné dans ce conflit si vous y allez et on ne vous fait pas confiance pour être en mesure de nous protéger.
L'Arabie saoudite et la République islamique ont entamé un rapprochement tangible ces dernières années après une longue période durant laquelle le Royaume saoudien aurait volontiers applaudi un changement de régime en Iran.
Et Nicolas Falaise, hier la porte-parole de la Maison Blanche, a assuré que l'Iran avait renoncé à 800 exécutions de manifestants face aux menaces d'intervention formulées par Donald Trump, mais affirmait également que toutes les options restaient sur la table côté américain. En Iran, Internet reste pour l'instant coupé. Voilà une semaine que c'est le cas, l'Iran, où nous serons en direct avec notre correspondant Siavosh Ghazi dans le journal de 8h.
Au Proche-Orient, Donald Trump annonce la mise sur pied officielle du Conseil de la paix pour Gaza.
C'est une étape centrale de la phase 2 du plan américain pour le territoire palestinien. Les noms des membres de ce conseil doivent être annoncés prochainement. Conseil présidé par Donald Trump lui-même et qui aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.
Le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Donald Trump d'acquérir le territoire.
Une déclaration hier de la porte-parole de la Maison Blanche, alors que le gouvernement danois s'est dit hier en désaccord fondamental avec les États-Unis. Le Danemark qui a obtenu l'envoi d'une mission militaire européenne au Groenland, territoire autonome danois sous la menace de l'annexion, d'une annexion américaine. La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont été rejoints par les Pays-Bas, la Finlande ou encore le Royaume-Uni. Le gros des chasseurs alpins français, une trentaine de soldats au total participant à l'exercice, débarque aujourd'hui à Nuuk, la capitale du Groenland. Un déploiement plus politique que militaire, nous explique Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors.
Le format du contingent multinational envoyé et le lieu où ils ont été envoyés montre plutôt que ce seront des manœuvres qui seront destinées à préserver les centres névralgiques de l'île autour de Nuuk, donc les infrastructures portuaires, les quelques infrastructures routières, les infrastructures de télécommunications et puis la protection des immeubles gouvernementaux locaux. Donc ça s'apparente beaucoup plus à une mission de protection ou d'exercice à la protection des infrastructures infrastructures cruciales de la capitale du Groenland qu'à de véritables manœuvres militaires.
Le chercheur Cyril Brett, joint par Franck Alexandre.
Journée de vote chaotique hier en Ouganda.
Et de nombreux retards à l'ouverture des bureaux de vote pour le double scrutin présidentiel et législatif. Des dysfonctionnements rapportés aussi hier concernant les machines biométriques en panne, alors qu'Internet avait été coupé dans le pays et que les bureaux de vote étaient placés sous haute surveillance dans plusieurs régions, y compris à Kampala. Des pannes techniques ont contraint la commission électorale à revenir à une vérification manuelle de l'identité des votants à partir des listes papier, ce qui a retardé encore plus les opérations. Retour sur cette journée de vote avec Florence Maurice.
Des retards de 2 à 3 heures dans les grandes villes, dont la capitale Kampala, parfois davantage dans les zones rurales. Pour pallier ces problèmes techniques, la commission électorale a retardé d'une heure la fermeture des bureaux de vote. Mais certains électeurs n'ont pas caché leur frustration hier. Les observateurs craignent que certains n'aient finalement renoncé à voter et une incidence sur le taux de participation. En dehors de ces dysfonctionnements techniques, peu d'incidents majeurs ont été rapportés au fil de la journée. Mais la coupure d'Internet en vigueur depuis mardi soir ralentit la circulation des informations. Difficile donc d'avoir une vue d'ensemble sur le déroulé du vote, notamment dans les zones rurales. Certains observateurs se sont étonnés d'une moindre présence de jeunes dans les files d'attente, dans un pays où l'immense majorité de la population a pourtant moins de 30 ans. Dans l'après-midi, l'opposant Bobi Wine a dénoncé, je cite, des bourrages d'urnes massifs, sans plus de détails ni fournir de preuves. Il a également accusé les autorités d'avoir arrêté plusieurs de ses représentants dans les bureaux de vote, lui qui avait prévenu qu'il appellerait à manifester en cas de vote truqué. Le sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, s'est lui montré confiant dans sa capacité à décrocher un septième mandat.
Et la commission électorale a 48 heures jusqu'à demain fin d'après-midi pour annoncer les résultats de ces élections dans l'est de la République démocratique du Congo. À présent, le groupe armé AFC-M23, soutenu par le Rwanda, annonce son retrait de la ville d'Uvira dans le sud Kivu. Dans un communiqué hier soir, le groupe armé indique qu'il a décidé de placer officiellement la ville sous la responsabilité pleine année entière de la communauté internationale. À compter de cette date, le mouvement appelle la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, à assurer la protection des civils de la ville dans ce qu'il qualifie de contexte préoccupant. À noter que ce n'est pas la première fois que la FCM23 annonce le retrait de ses troupes de la ville dont il a pris le contrôle début décembre.
Le geste a été qualifié de magnifique par Donald Trump.
Oui, le président américain recevait hier l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui lui a remis sa médaille de prix Nobel de la paix. C'était à la Maison Blanche, un geste alors que Donald Trump convoite ouvertement cette distinction. Cette rencontre qui avait lieu alors que le président américain a estimé que l'opposante qui avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre dernier pour recevoir justement ce prix Nobel n'était pas qualifiée pour diriger le pays. À Caracas, ses partisans espèrent pourtant vivement son retour. C'est un reportage d'Alice Campignol.
Bienvenue à Maria Corina et Edmundo González pour qu'ils viennent diriger le pays.
Pour José, 25 ans, la rencontre entre Donald Trump et Maria Corina Machado est prometteuse. Le jeune homme voit déjà la dirigeante de l'opposition sur la chaise présidentielle. Selon lui, c'en est fini du gouvernement, même si Delcy Rodriguez, la vice-présidente de Nicolas Maduro, est toujours aux commandes. Sa sœur, Emiliana, est plus nuancée, mais elle croit en un plan de l'administration américaine.
Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement de Donald Trump, mais je sens qu'il y a une stratégie. Et Maria Corina Machado doit faire partie de sa stratégie.
Pour le moment, l'opposante très populaire est toujours poursuivie par la justice de son pays pour conspiration et terrorisme notamment. Elle y est considérée comme fugitive. Mais pour ses partisans, et ils sont nombreux dans le pays, Machado devra se présenter au prochain scrutin. On écoute Fernanda.
Maria Corina Machado est la clé de voûte, ou en tout cas, elle sera le centre de l'attention lors du processus de vote qui doit avoir lieu. Mais cela implique de changer les figures des institutions électorales.
Si Maria Corina Machado est attendue dans son pays, tout porte à croire que c'est Donald Trump qui décidera de son avenir. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et on évoquait Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. Hier, elle a évoqué dans un discours devant l'Assemblée nationale une réforme partielle de la loi sur le pétrole, moins de deux semaines après l'intervention américaine qui a conduit à l'enlèvement de Nicolas Maduro. Elle n'a pas donné néanmoins d'indications précises sur le texte de loi.
Un accord entre Taïwan et les États-Unis trouvé sur les droits de douane.
Et il a été trouvé hier soir. Il est hautement stratégique. 15% de droits de douane au lieu des 32% annoncés initialement en avril dernier par Donald Trump. Mais en échange, Taïwan et ses entreprises de semi-conducteurs s'engagent à investir massivement aux États-Unis. Objectif pour l'administration américaine, développer et surtout sécuriser la chaîne de production de semi-conducteurs sur le sol américain. Jules Bois.
Après 9 mois de négociations, les droits de douane imposés par les Américains à Taïwan seront les mêmes que pour le Japon, la Corée ou encore l'Union européenne. Surtout, l'industrie des semi-conducteurs taïwanais échappe aux taxes supplémentaires sur leurs composants à condition d'investir sur le sol américain. Avec cet accord, les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs, parmi lesquelles la plus importante d'entre elles, TSMC, s'engagent à investir au moins 215 milliards d'euros pour développer leur production aux États-Unis. Le gouvernement taïwanais, lui, doit garantir 215 milliards d'euros d'investissements supplémentaires pour soutenir cette expansion. L'objectif pour le gouvernement américain serait d'amener 40% de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise aux États-Unis. Pour l'administration Trump, c'est une victoire. Dans la course au développement technologique face à la Chine, ces investissements d'entreprises taïwanaises à la pointe de la technologie en matière de semi-conducteurs vont permettre de mieux sécuriser la chaîne de production américaine et rendre les États-Unis moins dépendants de Taïwan, menacé d'invasion par son voisin chinois. Jules Bois, Taipei. RFI.
La bataille pour les semi-conducteurs dans le monde. Guillaume Nodin y revient tout à l'heure dans la fabrique du monde.
Les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne vont-ils enfin signer leur accord commercial ?
Tout porte à croire que cette fois c'est bon. Ce sera normalement demain au Paraguay, un traité créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Après plus de 25 ans de négociations et malgré les inquiétudes du monde agricole, notamment en France, la France sous le procès en appel du Front National devenu Rassemblement National et de plusieurs de ses responsables, dont Marine Le Pen, poursuivie pour détournement de fonds publics européens, est entrée hier dans le vif du sujet avec l'audition du représentant du Parlement européen, partie civile. En première instance, son préjudice avait été estimé à 4,4 millions d'euros. À la barre, le directeur général des finances de l'institution a répondu à la stratégie de défense évoquée par la chef de file du RN à l'ouverture du procès, Laura Martel.
Le Parlement européen est victime d'un système. La première phrase de Didier Clity est courte, mais vise un double objectif. Rappeler les termes forts des juges de première instance, qui ont conclu qu'un véritable système organisé avait été instauré pour faire faire des économies au Front National, en faisant financer par les fonds européens des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le parti, mais aussi se positionner par rapport à la ligne de défense esquissée par Marine Le Pen. Au premier jour, elle avait indiqué que ni elle ni le parti n'avaient à aucun moment eu le sentiment de commettre un délit et mis en cause le Parlement européen pour ne pas avoir joué le rôle d'alerte qu'il aurait dû jouer. Or, pour Didier Clety, la règle était claire et parfaitement connue des élus. Un assistant parlementaire n'a pas le droit de travailler pour un parti politique sur le temps contractuellement dédié à l'eurodéputé. C'est la même chose qu'à l'Assemblée ou au Sénat, rappelle aux fonctionnaires, tout comme un salarié ne peut pas travailler sur son temps de travail pour une autre entreprise. Vous avez été trompé parce que c'était trop bien dissimulé ou que vous avez manqué de vigilance, s'enquiert une magistrate. Nous travaillons sur un mode déclaratif et sur la base de la confiance, surtout qu'il s'agit d'élus. Un contrat peut être formellement correct, mais la réalité de sa mise en œuvre différente, explique Didier Blety. Or, avec plus de 6500 contrats à traiter, en l'absence d'alerte, impossible, dit-il, de vérifier les activités de chacun.
Et Laura Martel, et puis la France où le gouvernement annule les débats jusqu'à mardi, jugeant impossible le vote d'un budget à l'Assemblée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu espère d'ici là dégager les conditions du non-censure avant d'emprunter la voie du 49-3 ou de l'ordonnance pour faire passer le texte sans vote.
C'était le journal de Jeanne Bartoli, RFI, 6h14 à Paris. On est ensemble jusqu'à 9h pour un tour du monde de l'actualité. L'Iran à la une toujours de nos éditions, plus de deux semaines après le début des manifestations réprimées dans le sang. On sera en direct de Téhéran dans moins de deux heures. Dans cette situation, Donald Trump continue de menacer d'une intervention américaine. Il menace aussi les pays qui font affaire avec la République islamique et ils sont nombreux, même en Europe, on le verra avec Stéphane Genest dans Aujourd'hui l'économie. Dans le reportage international, on sera en Syrie où l'armée prépare un nouvel assaut contre les Kurdes des forces démocratiques syriennes. Ça se passe dans dans la province de Derafer où les civils tentent de fuir les combats.
Je suis arrivé ce matin pour aider les déplacés et les transporter en lieu sûr. Il y a des milliers de personnes qui sont passées, ça continue. Les forces démocratiques syriennes ont fermé les routes habituelles. Les familles sont obligées de passer par ce pont détruit.
Un arrière-goût pinard, un foie à la place du cœur. Je crache dans mon verre, pourtant c'est lui qui me nourrit. Lui qui nourrit ma vie et qui éponge mon envie. L'heure n'est pas à l'image ni à la métaphore. Faut que ça sorte de mon verre, faut que ça déborde encore. Et ça déborde de mon corps, de mes yeux perlés d'alcool. Sur la gouttière trouée de mes nuits qui réclament un parapluie. J'avale la fumée pour apprécier la prochaine gorgée. Pour écorcher l'ardoise, danseur de duel, je suis pas le dernier. Même si aujourd'hui y en a qui me font de la concurrence. L'allégresse d'hier soir semble avoir tiré sa révérence. Car aujourd'hui c'est dimanche. Mais pour moi ça change rien, demain je serai là ou pas bien loin. Et cette envie colorée mes nuits blanches alimente mon litron de pastel, mon tableau qui chancelle. La cloche du bar cogne et je salue le pachyderme. Avec sa trompe en forme de cul de bouteille et son drôle d'épiderme. Mon voisin de comptoir, confident à ses jours perdus. Avec qui je refais l'histoire en un bloc d'idées non reçues. Pas aujourd'hui, il manque à l'appel. Il a laissé traîner une plume, vestige de cirrhose à l'appel. Bien en main, voilà l'essence de cette chanson. Quelques mots d'ivrogne dédiés à mes vieux compagnons. Je suis pas là pour me plaindre, ni pour me faire caresser le dos, car mes bons vieux compagnons, je les ai rencontrés au bistrot. Avec leur air bourru et leur discours qu'on pas l'air net, on vient pas du même monde, mais on vit sur la même planète. La planète Jupiter, ou donne-lui le nom que tu veux. En tout cas en termes de famille, j'ai rien trouvé de mieux que ce lieu. Et si demain tu me cherches et que d'un coup la cloche cogne, tu ne trouveras peut-être que la plume. Qui a écrit ces mots d'ivrogne? 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 Ces mots d'ivrogne, ces mots d'ivrogne. Qui a écrit ces mots d'ivrogne? Ces mots d'ivrogne, ces mots d'ivrogne. Qui a écrit ces mots d'ivrogne?
Thank you. velu. Boogie woogie flow, chaloupé, tu t'es pas loupé. Si t'as parié sur mon possi pour tout péter, tir groupé, ma troupe découpe des pages. Je parle pas, papa, passe le mic ou papa, papa, passe le pète.
De hache pour mes apaches, de Panama aux emballages. Lâche des rimes aiguisées à la hache, j'ai pas négligé à la rage. On s'est remis à la tâche, MC va faire tes classes avant de vouloir faire des clashs. Jamais on lâchera. Black Bar, Matza ou Mike Landal de basse grasse. Passe, passe à l'as, Latan, Koutatan. Faut que ça cavale et des phases fatales. Pas de casse pour mes gars, ça taffe grave, on lâche pas de SOS. On a le style qui blesse, y'a de l'Est à l'Ouest. Le rap est pris de vitesse, donc dis-moi S. Raisonnable de l'outesse, les MC me détestent. J'lâche du lourd, il lâche du lest.
Est-ce que j'reste le baisse sur le verbe? Le rap français est en berne, bêcherelle sur eux. On est des neugeux, mais sur le mic appelle-nous monsieur. Mode de vie furieux, faut pas que tu stresses.
On garde la justesse, laisse faire. Viens, on se perd dans notre sphère, sur fond de caisse claire. Reste, qu'on teste nos 16, voir si tu acquiesces et fais ce qui te plaît. T'as sonné à la bonne adresse, yes. Excès de dopamine exercé à la rime. C'est nos essais qui te contaminent. On a tressé nos énoncés pour saigner ces scènes qu'on anime. Quand le son de la team est fixé, mixé, ça fout le fire. Yes, aïa, j'écris mes rimes sous aïa. La concurrence manie le verbe comme Ribéry sous aïa. Tu ailles comme l'Himalaya, t'es crédible comme un Maya. Blague à part, on passe à l'acte, ton blabla y'en a assez.
Comme des mecs cassés, écrasés, dépassés par l'âge des rappeurs qui veulent se placer. Tu peux pas tout effacer et ressasser le passé. C'est naze, essayez de nous rabaisser, c'est lâche.
On gratte bas de page, d'orage et de bas étage. Viens jouer à cache-cache dans nos phases et passe le message. Et sache que c'est métissé, slash épicé, slash mérité. Je marche avec des clics et c'est
H. 2-2, 3 MC pour tes deux yeux, sorti d'un nuage de bœuf. Hey, respire un coup si tu nous rates de peu. On débarque en 2-2, ouais on vient faire des heureux. Mais bon y'a pas de feu, mets-moi un gramme, un café, 2-2. Yes, yes, petit déj qui te laisse en liesse. Centaure de zep dans la pièce, 4 consonnes, 2 voyelles, 12 lettres de noblesse. C'est juste un exercice des stress, on s'occupe du reste. C'est le
of the shares never understand. I don't care.
Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.